Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez le podcast du Journal des Tribunaux. Je suis Georges Alberdin, rédacteur en chef du Journal des Tribunaux, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir et de converser avec Nicolas Caria, qui est avocat, chargé de cours à l'UC Louvain et à l'UNAMUR, et qui a rédigé un article avec Yannick Thomas Nowak, qui lui-même est également avocat, qui va paraître dans le numéro portant la date du 19 mars 2022 et dont l'intitulé est, je le lis, « Passer par la case Luxembourg, entre guillemets avec un point d'exclamation, l'obligation du renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne ». Et le petit résumé introductif nous met directement sur la voie de la première question que je vais poser. Je le lis, alors que tout juge national est susceptible d'interroger la Cour de justice à titre préjudiciel, les traités imposent de renvoyer à cette dernière les questions considérées comme présentant une importance à ce point systémique qu'elles doivent être tranchées par la juridiction suprême du système juridictionnel européen. Mais les choses ne sont pas aussi simples que ce principe. Il y a un ensemble assez complexe qui a été remarquablement décrit par les deux auteurs et qui résulte d'un arrêt, qui est l'arrêt Consortio Italian Management. Que nous dit cet arrêt à propos de la matière, Nicolas Caria?
Bonjour et merci pour cette opportunité de participer à ce podcast Journal et Tribunaux. L'arrêt Consortio Italian Management, qui a été rendu le 6 octobre 2021 par la Grande Chambre de la Cour de justice, concerne sur le fond une affaire de marché public, mais ce n'est pas pour ça qu'il restera dans la postérité, puisque c'est essentiellement une question procédurale qui est tranchée par la Cour de justice. Pourquoi est-ce que cet arrêt est important? Alors, il ne révolutionne pas l'état du droit et de la jurisprudence, mais alors que l'avocat général avait plaidé pour une petite révolution, c'est-à-dire en invitant la Cour à restreindre les hypothèses dans lesquelles des juridictions nationales étaient obligées de poser une question préjudicielle à la Cour de justice pour résoudre une question liée à l'application ou à la validité des droits de l'Union, la Cour a choisi de confirmer pleinement, de synthétiser et de renforcer sa jurisprudence historique. Et donc cet arrêt peut être considéré à partir de maintenant comme le nouveau leading case de la Cour de justice concernant cette obligation de renvoi préjudiciel. Et donc cet arrêt, c'est l'objet, mais c'est surtout l'occasion de cet article Journal des Tribunaux avec une vocation de synthèse quant aux hypothèses dans lesquelles un juge est tenu d'adresser une question préjudicielle à la Cour de justice. Alors, pourquoi c'est important? Parce que dans un contexte où beaucoup de juridictions nationales ne semblent pas disposées à déférer à cette obligation, ne semblent pas toujours complètement informées, également dans un contexte où depuis quelques années, l'autorité du droit de l'Union et l'autorité des arrêts de la Cour de justice peuvent être remis en cause par des juridictions nationales, eh bien, la Cour de justice renforce cette obligation et l'arrêt explique bien pourquoi. C'est-à-dire qu'il explique que ce renvoi préjudiciel, la procédure de renvoi préjudiciel, elle est indispensable et consubstantielle à l'application uniforme du droit de l'Union. Pourquoi est-ce que des affaires, quand elles sont jugées au niveau national en dernier ressort, doivent remonter à la Cour de justice? C'est parce que il y a la nécessité d'assurer, dans le cas concret, la correcte application du droit de l'Union et la protection qu'il confère aux parties en litige. Ça, c'est l'objectif micro, disons, mais qui rejoint l'objectif macro, l'objectif systémique, d'application uniforme et de pleine efficacité du droit de l'Union.
Oui, donc, parmi les questions qui se posent, et je reprends certains des sous-titres de votre article, il y a notamment, par rapport à l'importance de l'obligation de renvoi préjudiciel, l'identification des juridictions qui doivent y procéder. Alors, qu'est-ce qu'une juridiction nationale de dernier ressort?
Alors, une juridiction nationale de dernier ressort, ce n'est pas un critère organique, hein, donc ce n'est pas uniquement les juridictions suprêmes d'un système juridictionnel national. C'est-à-dire qu'en Belgique, ce n'est pas uniquement la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle, pour faire simple. C'est dans chaque affaire particulière, le dernier juge national qui est susceptible de statuer utilement sur le droit de l'Union est tenu, sauf dans les exceptions limitatives énumérées par la Cour de justice et résumées par cet arrêt, de renvoyer la question à la Cour de justice afin qu'elle se prononce elle-même sur l'interprétation ou la validité du droit de l'Union. Et donc, par exemple, dans l'arrêt, un des arrêts fondateurs du droit de l'Union européenne, qui est l'arrêt Costa contre Enel 1964, qui a consacré la primauté du droit de l'Union, on était face à un arrêt italien, mais c'était le juge qui correspond en fait au juge de paix en Belgique, le juge des tout petits litiges, ça concernait une facture d'électricité, qui a posé cette question. Et en réalité, il était tenu par le traité de poser cette question parce que, compte tenu de la valeur du litige, il n'y avait aucun appel possible, aucune voie de recours possible. Et donc, ça montre bien ici, avec ce cas qui concerne l'ordre juridique italien, que on doit l'étudier au cas par cas de manière fonctionnelle, cette notion de juridiction de dernier ressort, et pas de manière organique.
Ce qui implique d'ailleurs que les avocats en charge de dossier doivent être particulièrement attentifs à cette question, quel que soit le degré de juridiction. L'exemple qui vient d'être donné, évidemment, les plus petits dossiers arrivent le plus rapidement au dernier degré de juridiction. Alors, il y a une autre question, vous y avez fait une allusion à l'instant, mais je crois qu'il faut en dire un mot maintenant, ce sont les exceptions. On comprend bien le principe, on peut déterminer les juridictions qui doivent y procéder, et là, les avocats doivent être évidemment attentifs, les juges aussi d'ailleurs, mais quelles sont les exceptions?
Alors, les exceptions à l'obligation d'une juridiction de dernier ressort à adresser une question préjudicielle à la Cour de justice, elles sont au nombre de trois, qui découlent en réalité d'un arrêt déjà ancien, qui est l'arrêt Silfit, qui était, disons, le précédent leading case, mais qui est confirmé et précisé par l'arrêt dont question ici. Alors, il y a trois exceptions. La première, c'est celle d'une disposition du droit de l'Union qui aurait déjà été interprétée par la Cour de justice. Donc, si une question se pose dans un litige national quant à l'interprétation à donner à une disposition dont l'interprétation a déjà été éclairée, eh bien, on peut considérer qu'il n'est pas utile de lui adresser la question. Il est même de bonne administration de la justice de ne pas le faire. La deuxième exception, c'est celle de la question qui n'est pas pertinente pour la solution du litige. Alors, pas pertinente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas strictement nécessaire à la solution du litige. Pourquoi? Parce que, éventuellement, le litige n'est pas recevable. Parce que le litige est prescrit. Donc, il y aurait une vraie question à trancher sur le fond de droit européen, mais en réalité, conditions de recevabilité d'un recours ou d'un moyen, par exemple, font que celui-ci n'est pas admissible et qu'au fond, il n'y a pas réellement de questions qui se posent devant le juge national à trancher et qui nécessiterait qu'il s'adresse à la Cour de justice. Donc, non pertinence, c'est la deuxième exception. Et la troisième exception, qui est un peu la plus compliquée à mettre en œuvre en pratique, qui est également la plus discutée, c'est celle qui a été qualifiée par la doctrine de l'acte clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation pour un juge national d'adresser une question préjudicielle à la Cour de justice. S'il y a une question d'interprétation qui se pose quant à une norme du droit de l'Union, mais qu'en réalité, il est convaincu que la réponse à y apporter est évidente. C'est tellement clair qu'il n'y a pas de question à poser. Alors, ça, c'est le principe. Dans les faits, ça pose problème à un double égard, puisque, évidemment, de manière très concrète, de se demander s'il existe vraiment des normes qui seraient à ce point claires qu'il ne faudrait pas les interpréter, et surtout parce que ça a été instrumentalisé, cette exception, par beaucoup de juridictions suprêmes nationales, pour en réalité se soustraire de plus ou moins bonne foi à l'obligation qui était portée par les traités. Et donc, cette exception subsiste, mais on note très clairement dans la Cour la volonté de l'encadrer le plus strictement possible. Et donc, au niveau des règles, la Cour dit, pour faire application de l'exception, une juridiction nationale de dernier ressort doit être convaincue que la solution qu'elle adopte s'imposerait avec une même évidence aux autres juridictions nationales et à la Cour de justice. Et sur le plan procédural, elle lui impose, les traités imposent que chaque juridiction nationale qui entend faire application de cette exception le justifie et le motive de manière spéciale. Cette obligation de motivation spéciale, elle découle bien souvent du droit interne, mais elle découle pour le surplus explicitement des traités européens, mais aussi de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Parce qu'il y a des arrêts, plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui ont constaté une violation de l'article 6 quand un renvoi n'avait pas été fait à la Cour de justice alors que le traité l'imposait, sans qu'il y ait de justification de ce non-renvoi par la juridiction nationale.
Tout ça est absolument passionnant et il faut évidemment lire lorsqu'il aura paru cet article qui fait un point complet là-dessus. Il n'est pas possible d'aborder tous les aspects. On pourrait parler des sanctions attachées à la méconnaissance de l'envoi, mais peut-être pour terminer, quelle est la pratique des juridictions belges à cet égard? Est-ce que dans notre pays, il y a des spécificités ou des recommandations que vous feriez en guise de conclusion du podcast avant la lecture de l'article?
Alors, il faut se dire que donc la problématique de l'application du droit de l'Union et éventuellement d'un renvoi préjudiciel, elle se pose toujours devant une juridiction nationale. C'est un litige national. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un système judiciaire décentralisé. On n'a pas une juridiction au niveau européen qui va gérer toutes les affaires relatives au droit de l'Union. La Cour de justice ne connaît par exception que d'actions contre les institutions ou contre les actions manquement contre les États membres. On n'a pas non plus dans les États membres des juridictions spécialisées en droit de l'Union. C'est tous et chacun des juges nationaux qui appliquent le droit de l'Union. Les juridictions belges sont de bons élèves, si on peut le dire de cette manière. Ce mois-ci, la Cour de justice a enrôlé la 1000e affaire préjudicielle belge, donc la 1000e question préjudicielle, la première ayant été portée en 1967. Et donc, on a en moyenne entre 25 et 45 affaires qui remontent des juridictions belges vers la Cour de justice chaque année. Et si on fait une approche qualitative que permet maintenant, disons, cet échantillon de 1000 sur 50 ans qui est pertinent, on peut voir que toutes les juridictions belges sont susceptibles de poser des questions préjudicielles. Et donc, on est plus ou moins à 1000, comme on l'a dit, mais donc, les juridictions administratives, Conseil d'État et Conseil du contentieux des étrangers comptent environ ensemble 125 questions, la Cour d'arbitrage et ensuite la Cour constitutionnelle environ 40, la Cour de cassation, 113, les juridictions du travail, 220, les tribunaux de première instance et les cours d'appel, environ 400. Mais on a également des questions qui sont remontées, il y en a moins, mais des justices de paix, des tribunaux de police. Et donc, ce qu'on peut en tirer comme constat général à destination de l'ensemble des praticiens, c'est que donc, deux choses. Premièrement, évidemment, et les praticiens savent bien, ce n'est pas toutes les affaires des praticiens généralistes qui concernent le droit de l'Union. Et d'ailleurs, il n'y en a que 25 ou 45 par an qui remontent à la Cour de justice. Néanmoins, s'ils identifient, s'ils pensent pouvoir identifier dans une affaire particulière
une plus-value particulière du droit de l'Union, ils doivent savoir que même s'il y a des conditions, même s'il y a évidemment toujours un travail de conviction à faire, l'histoire et la jurisprudence nous montrent que les juridictions belges sont prêtes à jouer le jeu, très clairement.
Eh bien, voilà une conclusion optimiste en ce qui concerne l'état de la justice dans notre pays, qui n'est pas toujours aussi positif à d'autres égards. Ceci conclut cet épisode du podcast du Journal des Tribunaux. Je remercie Nicolas Carrière pour sa présence et sa participation à l'émission. Et vous, chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Et je vous rappelle que le numéro du Journal des Tribunaux consacré au mécanisme de renvoi préjudiciel sera disponible et portera la date du 19 mars 2022.